Quelqu'un dit « Avoir la foi, c'est avoir des ailes ». Il est vrai que la foi opère au-delà des cinq sens que nous possédons. Elle voit l'invisible, entend l'inaudible, touche l'intangible et passe à l'action pour accomplir l'impossible. Je continue de lire dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Littéralement, le texte dit « Par la foi pour Sarah, qui depuis longtemps avait dépassé l'âge de concevoir, Abraham a reçu la force de déposer la semence. Sarah fut alors convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. » Pour traduire cette phrase difficile, il faut prendre en compte le récit de la Genèse selon lequel Sarah n'a pas beaucoup de foi. Elle est plutôt du genre à prendre les choses en main. En effet, elle a donné sa servante à Agar pour son mari afin qu'il en fasse un ventre porteur duquel est né Ismaël, l'ancêtre des Arabes. Cependant, Abraham, lui, a suffisamment de foi pour sa femme et lui-même afin que naisse le fils de la promesse. L'Éternel passe donc outre l'incrédulité de Sarah, honore la foi d'Abraham et Isaac est né. C'est vraiment une naissance miraculeuse parce que Sarah ne peut pas avoir d'enfant pour deux raisons. D'abord, elle a toujours été stérile. Et ensuite, quand Dieu a dit au vieux couple que l'année suivante, ils auraient un fils, Sarah a 90 ans et Abraham 99. Ils ont donc dépassé l'âge de concevoir depuis longtemps. Il faut bien voir, ici encore, c'est la foi d'Abraham que l'auteur met en avant. Je continue le texte. C'est pourquoi aussi, d'un seul homme, plus encore, d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable, qu'on ne saurait compter sur le rivage de la mer. Abraham a eu de nombreux enfants, Ismaël, Agar, Isaac, de Sarah. Puis après la mort de Sarah, il a pris plusieurs femmes, de qui il a eu bien d'autres qui sont devenus chefs de tribu. Tous les Arabes sont issus de la magouille de Sarah qui a refilé sa servante Agar à son mari. Mais dans la souveraineté de Dieu, le peuple juif existe grâce à la foi d'Abraham. Un jour, un père amène son fils possédé d'un esprit mauvais à Jésus pour qu'il le guérisse. Après avoir expliqué la condition de l'enfant, cet homme ajoute « Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. » Il va sans dire que le Seigneur n'apprécie guère ce « si tu peux » et lui réplique « tout est possible à celui qui croit ». D'une certaine manière, la foi de l'homme libère la puissance de Dieu. Dans les épîtres aux Philippiens et aux Éphésiens, l'apôtre Paul écrit « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons et même pensons, à lui sur la gloire. » Je continue le texte. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas entrés en possession de la terre promise. Ce n'est que 5 siècles après la mort de Jacob que les descendants de ses 12 fils traversent enfin le Jourdain et font la conquête d'une partie de la Palestine. Mais les patriarches ne se plaignent jamais, car par la foi, c'est comme s'ils habitaient déjà la Palestine. En attendant que la promesse de Dieu se matérialise, ce sont des pèlerins exilés, et à ce titre, ils sont considérés comme des étrangers sans droit, des sans-papiers en quelque sorte, un peu comme ceux qui aujourd'hui, de par le monde, atterrissent dans des camps de réfugiés. Mais pour celui qui fait confiance à Dieu, sa promesse équivaut à la réalité, même s'il ne connaît pas les détails du comment cela va-t-il se faire. Je continue. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. Les patriarches sont des étrangers en terre promise, mais ils n'ont jamais songé à retourner en Égypte. Ils parcourent la terre promise en long, en large et en travers. Et ils ont fait paître leurs troupeaux, ils élèvent leurs enfants, et pour eux, c'est suffisant, parce qu'ils croient que leurs descendants hériteront de ce pays. Et pour eux, cette vie n'est pas une fin en soi, mais un pèlerinage. Vers un meilleur endroit, une maison dans les cieux qu'il leur est donnée comme destination finale. Je continue. Par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui eut la promesse et à qui Dieu avait dit « C'est par Isaac que tu auras une descendance ». Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un mort. Et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration. La foi d'Abraham en l'Éternel est tout à fait exemplaire. Son fils Isaac est né parce qu'il croit que Dieu peut redonner vie au corps usé du vieux couple qu'il forme avec Sarah. Après avoir marché avec Dieu pendant de longues années, Abraham a expérimenté sa fidélité et il est désormais prêt à lui rendre Isaac et en lui tranchant la gorge. Les Écritures ne parlent pas de cet état d'âme quand l'Éternel lui ordonne « Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, et va au pays de Morija, là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. » Le texte de la Genèse dit simplement « Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âme, et emmena deux de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Il est probable qu'une fois passé le choc initial de la requête de Dieu, Abraham ne se pose pas de questions. Il se dit, si l'Éternel est le Dieu de toute la terre, il sait ce qu'il fait. Ce qu'il demande est à la mesure de sa grandeur et il fera le nécessaire, même si cela veut dire ressusciter Isaac, de manière à ce que la promesse que l'Éternel lui a faite puisse s'accomplir. Il part donc et gravit la montagne de Morija, avec Isaac, son fils bien-aimé, qu'il a bien l'intention d'offrir en sacrifice à l'Éternel. Abraham entretient une relation intime avec Dieu, ce qu'il fait qui est sans doute bien versé en théologie. Non seulement il croit en la résurrection des morts et à la vie éternelle, mais il a probablement une solide connaissance de toutes les grandes doctrines des textes sacrés. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Et son fils lui a été rendu ». C'est une préfiguration. En effet, au moment d'égorger son fils, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Isaac a été offert, mais non sacrifié. Il est mort et revenu à la vie d'une manière virtuelle, en quelque sorte, ce qui fait bien de lui une préfiguration de la résurrection. Cette histoire se termine bien, mais il n'empêche qu'Abraham est bel et bien disposé à sacrifier son fils. Cette obéissance absolue à la requête divine atteste l'authenticité et la profondeur de sa foi. En persévérant pendant 120 ans, Noé est une illustration de la foi dans son étendue et Abraham dans sa profondeur, parce qu'après avoir marché avec Dieu pendant des années, sa confiance, lui, dans ses promesses est sans limite. Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul écrit « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là votre part, un culte spirituel. » Et Matthieu rapporte que Jésus a dit « à ses disciples. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je continue le texte. Par la foi aussi, Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Par la foi, Jacob a béni, peu avant sa mort, chacun des fils de Joseph et s'est prosterné pour adorer Dieu, en prenant appui sur l'extrémité de son bâton. Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, a évoqué la sortie d'Égypte des descendants d'Israël et a donné des instructions au sujet de ses ossements. Les patriarches, Jacob et Joseph, font la démonstration de la foi devant la mort. Tous deux l'affrontent sans crainte avec une sérénité confiante en Dieu. Pour cette raison, ils sont cités dans la liste d'honneur des saints de l'Ancien Testament. Affronter la mort, l'agonie et la destruction du corps n'a rien de réjouissant. Mais Dieu désire que ceux qui lui font confiance quittent ce monde tranquille. Toute voile d'or est le pavillon flottant tout en haut du mât. Les croyants doivent pouvoir partir dans l'au-delà avec un air de triomphe parce qu'ils s'en vont pour prendre possession de leur héritage éternel qui est dans les cieux. Quand leur dernière heure a sonné, les patriarches baignent dans la paix. Bien qu'ils n'aient pas vu se réaliser les promesses de Dieu, ils les ont reçues par la foi, elles les ont transmises à leurs enfants par la foi, et ils laissent à leurs enfants l'héritage des promesses que l'Éternel a faites à leurs ancêtres Abraham. Dieu lui a promis que ses descendants deviendraient une nation puissante, qu'elle posséderait le pays de Canaan et que le monde entier serait béni par sa postérité. Mais Abraham n'a rien vu de tout ça. Isaac, un tout petit peu. Jacob, un peu plus. Et Joseph, encore davantage. Précédemment, l'auteur a dit « C'est par la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qu'il leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. » Ce verset s'applique très bien aux patriarches. Contrairement à ceux qui meurent désenchantés à cause de rêves non réalisés, les patriarches ont quitté ce monde dans la foi, confiant que toutes les promesses que Dieu avait faites s'accompliraient. À ses lecteurs hébreux, l'auteur fait la démonstration que depuis le temps les plus reculés de leurs histoires, c'est que la foi en l'Éternel, que leurs ancêtres ont fondé la nation d'Israël, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Après Abraham, le prochain héros que l'auteur mentionne est Isaac, qui par la foi a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Isaac a vécu plus longtemps que les autres patriarches et pourtant les textes sacrés ne parlent guère de lui, peut-être parce qu'il est du genre passif, moins coloré que les autres patriarches et de nature craintive, malgré les promesses que l'Éternel lui a faites. Mais, à sa décharge, il faut dire qu'il ne fait jamais qu'imiter son père Abraham qui, quand il craint pour sa vie, ment à deux reprises au sujet de sa femme. Isaac est foncièrement un jouisseur. Comme son estomac passe avant Dieu, il préfère son fils Ésaü à Jacob parce qu'il ramène du gibier à la maison. Isaac est rebelle. Il ne peut pas ne pas savoir que Ésaü a vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob et que l'Éternel a déjà choisi ce dernier comme héritier des promesses. Pourtant, Isaac tente de donner la bénédiction patriarcale à Ésaü parce qu'il l'aime davantage. À cette occasion, toute la famille se comporte d'une manière honteuse, car au lieu de faire confiance à Dieu, Jacob et sa mère magouillent et sortent le grand jeu pour tromper Isaac qui est aveugle. Si la foi d'Isaac en l'Éternel est faible, elle existe quand même. Elle est particulièrement brillée quand il a accepté, sans résister, d'être immolé par son père au sommet de la montagne de Morija. Comme il doit avoir à peu près la trentaine, Il aurait facilement pu maîtriser Abraham, qui était âgé de plus de 130 ans, mais non. Il se soumet docilement à la volonté de son père et de Dieu. Puis, quand vient le moment de bénir ses deux fils, Ésaü et Jacob, c'est par la foi qu'Isaac proclame que l'Éternel tiendra ses promesses à sa manière et en son temps. Je continue le texte. Par la foi, Jacob a béni, peu avant sa mort, chacun des fils de Joseph et s'est prosterné pour adorer Dieu en prenant appui sur l'extrémité de son bâton. Individu très coloré, Jacob est une parfaite illustration des travers de la nature humaine et de l'action de la grâce de Dieu dans la vie d'un homme rotteur. Dieu seul peut prendre un être tordu, le redresser et en faire un instrument à sa gloire. Avant même de naître, Jacob se bagarre avec son frère Ésaü dans le ventre de leur mère. Et bien qu'il soit né en second, il tient fermement le talon d'Ésaü. Jacob est un homme sournois, sans mérite personnel, car il ne vit que pour lui-même. Grand manipulateur devant l'Éternel, il a même marchandé avec lui. Mais l'Éternel lui a enseigné que c'est en luttant avec Dieu, et non pas contre les hommes, qu'il obtiendrait ce qu'il voulait. Dans ce but, l'ange de l'Éternel attaque Jacob, mais ce dernier le retient et lutte avec acharnement toute une nuit. À cette occasion, Jacob dit à l'ange, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu m'aies béni. » Il reçoit ce qu'il désire, mais en contrepartie, il est blessé à la hanche et boite pendant le reste de toute sa vie. Dieu veut que nous soyons déterminés et persévérants avec lui. C'est l'audace de la foi qui appelle les bénédictions célestes. Bien que Dieu ait promis sa bénédiction à Jacob, ce dernier ne peut pas attendre et la vole à son père en le trompant d'une manière odieuse avec l'appui de sa mère. Mais comme on dit, il ne l'a pas emporté au paradis, car cette mauvaise action fait boomerang et lui revient en pleine figure à la fin de sa vie avec ses propres fils qui lui jouent un tour de cochon. Tout commence à dégénérer pour Jacob quand il imite son père Isaac en exprimant sa préférence pour Joseph par rapport à ses 10 autres fils. Ces derniers prennent alors leur jeune frère en grippe et veulent le tuer pour finalement le vendre à une caravane en route pour l'Égypte. Ensuite, les frères trompent leur père Jacob en trempant le manteau bigarré de Joseph dans le sang d'un animal égorgé pour faire croire à Jacob que Joseph s'est fait déchirer par une bête féroce. Les fils de Jacob se sont conduits envers leur père exactement comme lui s'était comporté envers Isaac, ce qui confirme bien le proverbe « tel père, tel fils ». Cependant, et contrairement à son père, Jacob n'essaie pas de faire dérailler le plan de Dieu comme Isaac qui tente de donner la bénédiction patriarcale à Ésaü, alors qu'il sait fort bien que c'est Jacob qui est le porteur de la promesse divine. Jacob, lui, bénit ses fils en suivant l'inspiration que lui donne le Saint-Esprit. L'auteur de l'Épître mentionne spécifiquement Joseph parce qu'il a reçu une double bénédiction de son père, ce qui se traduit par ses deux fils qui deviennent chacun chef des 12 tribus d'Israël. Mais alors, et je fais une petite parenthèse, si Jacob a eu 12 fils, Israël devrait compter 13 tribus. Eh bien non, parce qu'il faut enlever les descendants de Lévi qui n'ont pas reçu d'héritage et qui sont éparpillés dans tout le pays promis. Il faut encore ajouter que dès l'entrée des Hébreux en terre promise, la tribu de Siméon est rapidement assimilée à Juda et donc disparaît presque. Plus tard, quand le royaume se scinde en deux, au sud, on a la tribu de Juda alliée à Benjamin, et au nord, il reste 9 tribus, bien que les textes parlent toujours des 10 tribus du nord. Peut-être est-ce dû au fait qu'une partie de Siméon avait déménagé au nord. Au seuil de la mort, c'est quand même avec foi que Jacob bénit Joseph et lui dit « Je vais bientôt mourir. Dieu sera avec vous et vous fera retourner au pays de vos ancêtres. Quant à moi, je te donne une part de plus qu'à tes frères. Sichem, que j'ai conquise sur les Amorites avec mon épée et mon arc. Comme Abraham et Isaac, Jacob ne possède pas non plus de terre promise, mais il a tout de même transmise à ses fils par la foi. Je continue le texte. Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, a évoqué la sortie d'Égypte des descendants d'Israël et a donné des instructions au sujet de ses ossements. Joseph est un véritable homme de foi, impur. Les Écritures ne lui attribuent aucune faute, sinon peut-être quand, adolescent, il se fait mousser devant ses frères et ses parents suite à un rêve préméditoire selon lequel, un jour, toute la famille s'inclinerait devant lui, ce qui a effectivement eu lieu. Joseph est souvent considéré comme une image de Jésus-Christ par qu'il existe beaucoup de similitudes entre eux deux. Par exemple, comme Jésus, Joseph est le fils obéissant et bien-aimé de son père. Et pour cette raison, ses frères le haïssent et complotent sa mort. C'est aussi ce qu'ont fait les religieux juifs envers Jésus. Joseph est trahi par ses frères et vendu comme esclave, et Judas a agi de même envers Jésus, qu'il a vendu pour 30 pièces d'argent. Alors qu'il est en Égypte, Joseph épouse une femme païenne, hors de l'alliance entre l'Éternel et Abraham. L'Église, qui est appelée l'épouse de l'agneau, c'est-à-dire du Christ, est elle aussi composée en majorité de gens issus de milieux non-juifs, extérieurs à l'Alliance. Après avoir été vendu comme esclave, Joseph est injustement accusé et jeté dans un cachot. Mais il a toujours eu foi en l'Éternel qui le bénit et fait de lui l'intendant de l'Égypte où il passe toute sa vie d'adulte. Alors que Joseph est l'héritier de la promesse que 200 ans auparavant l'Éternel a faite à son aïeul Abraham, il ne peut même pas dire qu'il a vraiment habité en terre promise. Et d'ailleurs, au moment de sa mort, aucun descendant d'Abraham ne s'y trouve. Mais si Joseph ne peut pas personnellement hériter la terre promise, son cœur et son espérance y est déjà, et il veut que ses os y soient enterrés. C'est par la foi qu'il dit à son peuple, « Lorsque Dieu interviendra pour vous, vous emporterez d'ici mes ossements. » Et effectivement, au moment de l'Exode, quand les Hébreux quittent l'Égypte, ils prennent soin d'emporter avec eux les os de Joseph. Joseph a regardé de loin le pays de la promesse, mais il l'a vu, et au moment de quitter ce monde, il dit, « Je vais mourir, mais Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur et vous fera remonter de ce pays vers celui qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph est un homme remarquable, droit comme un i, alors que son père Jacob et son grand-père Isaac laissent beaucoup à désirer. Pourtant, au seuil de la mort, l'épreuve suprême de la foi, tous trois sont remplis d'espérance car ils ont une pleine confiance en l'Éternel.